bonjour et bienvenue dans les Arts du Fleu numéro 26. Arts du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors un numéro 26, eh bien un peu spécial puisque c'est un numéro de transition. Le dernier numéro, le 25, avait été très long, hein, il durait près de 2h20, donc j'avais décidé de changer un petit peu de formule. Et donc là, vous allez retrouver un numéro simplement avec le dossier et puis des ressources, une espèce de rubrique fourre-tout mais adaptée au dossier. Et ce sera un dossier sur la compréhension orale avec Aline Dintillac. Pour vous en dire plus sur cette nouvelle formule, il faudra un petit peu attendre, mais il y a plein de surprises qui se préparent pour vous, donc il va y avoir beaucoup de changements dans le mois à venir, dans les semaines à venir sur les Arts du Fleu, donc restez connectés et on vous annoncera tout ça quand ce sera prêt. Voilà, mais je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de ce qui va se passer autour de ce podcast et puis d'autres projets aussi qui vont venir. En attendant, donc on part tout de suite sur un dossier spécial compréhension orale avec Aline Dintillac. Alors pour ce numéro des Arts du Fleu, un peu nouvelle formule qui sera donc consacrée à la réception orale, je reçois Aline Dintillac. Alors elle est enseignante de Fleu, elle est formatrice de formateurs en multimédia à LUCO à Angers. Elle est aussi auteure de méthode Fleu chez Didier et puis responsable de développement de ressources sur plateforme d'enseignement pour les parcours en autonomie des apprenants. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Ça va bien?
Ça va. Toi aussi?
Oui, ça va bien. Ça va bien.
Trop froid?
Si, il fait très froid. Alors, ensemble, on va essayer de voir un peu comment amener ces apprenants à améliorer leur niveau de réception orale. C'est toujours un peu difficile. Nos apprenants sont toujours en train de dire « mais c'est dur de comprendre », etc. Et puis, souvent, la réponse des profs, c'est de dire « mais écoutez plus », etc. Essayez de faire plus d'exercices, exposez-vous plus. On va voir un petit peu ensemble comment faire pour les aider à s'améliorer. Ça te va comme ça?
C'est parfait.
Alors, on va peut-être commencer par se demander quels problèmes nos apprenants peuvent rencontrer dans ce domaine, hein, dans la réception orale. T'as une idée, toi?
Oui, déjà, il y a les réponses que eux, ils les ont. Quand on leur demande pourquoi c'est dur la compréhension orale, pour eux, c'est la vitesse, le manque de lexique qui sont les facteurs d'incompréhension. Mais dans la réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que ça.
Souvent ils nous disent hein, ça va trop vite, j'ai pas compris, ça parle trop vite.
Et puis j'ai pas assez de vocabulaire pour comprendre.
Moi aussi, enfin. Ouais.
Alors c'est pas faux, mais je pense qu'il y a plus de choses que ça. Il y a le fait par exemple que dans une langue étrangère, on n'écoute pas de la même façon qu'on écoute dans notre langue maternelle. En fait on est un peu plus exigeant je pense quand on écoute dans une langue étrangère. Dans notre compréhension, parce qu'on n'admet pas de ne pas comprendre chaque mot, alors que, par exemple, en langue maternelle, si j'écoute la météo, clairement, j'écoute pas quelle température il fait à Nice, j'écoute que celle qui me concerne et qui est à Angers. Donc, mon écoute, elle est ciblée, elle est en mode veille en langue maternelle. En langue étrangère, on va avoir envie de tout comprendre, absolument tout. Donc forcément, l'effort est largement augmenté.
Ouais, et puis même au-delà de ça, moi, il y a des choses que j'écoute dans ma langue maternelle que je comprends pas, hein. Parce que oui. j'ai pas assez de vocabulaire ou tout ça, mais aussi des choses que je comprends pas, mais que je devine. Et c'est vrai qu'en langue étrangère, on a plus envie de se dire, bon, est-ce que j'ai compris tous les mots et tout ça? Ce qui a donné parfois lieu à des méthodes où il y avait 80% du vocabulaire qui était réemployé d'un document à l'autre, etc., pour sécuriser au maximum, hein.
Or, finalement, connaître le vocabulaire ne va pas forcément permettre de comprendre le sujet dont on parle. C'est pas parce que je comprends tout le vocabulaire, tout le lexique que je comprends le sujet. Ça, c'est très différent aussi. Mmh. Il y a cette différenciation à faire entre comprendre du sens et comprendre une suite phonologique, un mot. Et ça, c'est aussi très, très important au niveau de la compréhension orale. Pour les étudiants étrangers.
Ouais.
D'autant plus que pour la phonétique, pour cette assimilation, il y a l'assimilation phonétique en français qui est très très difficile pour les étudiants étrangers et ils ont beaucoup de mal à distinguer chaque mot lorsqu'ils entendent du français. Le français assimile les mots.
Ouais, et là, on
ils n'arrivent pas à faire la segmentation.
On est dans un problème qui, dont ils ne sont pas conscients. Hein.
Ah non, très, très, très rarement. Il est juste, ça va trop vite. Mm-hmm. Mais c'est pas ça va trop vite, c'est que ça va trop et vite. C'est quatre éléments qu'ils connaissent individuellement, mais ça va trop vite. Ils n'arrivent pas comme ça à le segmenter en ces quatre éléments qu'ils connaissent.
Mm-hmm.
Donc, il y a tout le travail de déconstruction pour la reconstitution du sens aussi. Et cette assimilation, ce travail phonétique, je trouve qu'il n'est peut-être pas assez travaillé dès le départ.
Ouais,
je vois... ça, c'est aussi un problème.
Ouais, tu veux dire qu'on travaille beaucoup la phonétique, par exemple, pour les aider à prononcer des sons, des phonèmes, à essayer de les reconnaître, mais que c'est un peu trop déconnecté du sens, c'est ça, et du travail de compréhension.
Le travail de compréhension doit passer par la phonétique et effectivement, comme tu le dis, on travaille beaucoup la phonétique dans un aspect production. Ça, c'est une limite. D'autant plus que finalement, ce fait de ne pas maîtriser la chaîne phonologique, c'est du stress. Et le stress, c'est un facteur psychique aussi qui va freiner, bloquer la compréhension orale. Si je suis stressée, je comprendrai nécessairement beaucoup moins que si je ne suis pas stressée.
Mmh.
C'est complètement naturel. Et puis, comprendre, eh ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. On n'a jamais appris à le faire. Et pourtant, on a appris notre langue maternelle, mais sans apprendre à comprendre. Alors du coup, ben, c'est assez stressant de se dire, ben, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je ne comprenne pas alors que je sais comprendre? Pourquoi est-ce que je devrais avoir des méthodes de travail pour comprendre? C'est nouveau.
Ouais. C'est marrant ce parallèle que tu fais avec la langue maternelle parce que c'est vrai que parfois avec les enfants, on se demande ce qu'ils comprennent. On les emmène au cinéma, on leur demande de raconter ce qu'ils ont vu, quel film ils ont vu, et on peut avoir de sacrées surprises. Mais c'est justement le fait de pas savoir, peut-être pas avoir tout compris, eux, ça les stresse pas du tout, quoi.
Ah, c'est pas un souci pour eux de ne pas tout comprendre parce qu'ils vont interpréter ce qu'ils voient à partir de leurs expériences vécues. Donc ça, c'est aussi un gros aspect. C'est qu'on interprète forcément tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on perçoit comme unité de sens, plus précisément. On l'interprète en fonction de notre vécu, en fonction de nous, ce qui a créé notre compréhension du monde. Donc c'est particulièrement flagrant chez les enfants puisqu'ils ont peu de connaissance du fonctionnement du monde, de schémas de connaissance, mais eux, ils sont en pleine construction de tout leur schéma, et donc ça leur pose pas de problème, et tout va venir s'agréger, modifier leur schéma de connaissance, qui vont leur permettre de comprendre plus de choses, etc. Alors qu'en langue étrangère, ben, on n'admet pas ça.
Ouais, ouais. Donc là, tu évoquais un peu tous ces problèmes qui peuvent entraver un peu la compréhension ou du moins tous les aspects auxquels il faut faire attention pour justement s'entraîner à mieux comprendre, être conscient de plusieurs choses. Est-ce que tous les apprenants sont égaux devant la réception orale? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ces problèmes-là, ça marche pour tout le monde ou il peut y avoir des différences dans les publics?
Alors, les problématiques qui sont vraiment de l'ordre du... Effectivement, le linguistique, oublions pas qu'il existe quand même. Hein, la connaissance d'outils, elle est importante pour la compréhension. Mais donc, cet aspect linguistique, psychique et physique, puisqu'il y a aussi un aspect physique dans la compréhension, c'est présent chez tout le monde. Mais ensuite, on n'est pas tous égaux devant la réception de l'oral.
Je t'interromps un petit peu. Le physique, il intervient comment?
Le physique, il intervient tout simplement dans tout ce qui est les molécules de stress ou l'endorphine, etc.
D'accord.
Donc toutes les hormones qui vont intervenir, qui vont influencer. Alors on est à la fois sur le psychique et le physique parce que si je reçois des molécules de stress, je ne vais pas être apte à comprendre. Et puis autre chose, par exemple, si je suis fatiguée, j'ai eu la grippe la semaine dernière, j'ai expérience vécue, si je suis fatiguée, je vais avoir beaucoup plus de mal à comprendre, que ce soit dans ma langue maternelle ou dans la langue étrangère. Et c'est pas forcément logique de le nier. Si je suis fatiguée, je comprendrai moins, et c'est comme ça.
En gros, si tu manges un bœuf bourguignon avant d'aller en cours, tu comprendras moins.
Oui, alors ça s'appelle la pause prépandiale. Il y a des horaires où on n'est pas disposé, c'est sûr. Effectivement, la digestion ne facilite pas puisque toute notre énergie, elle n'est pas sur l'intellect. L'énergie est sur la digestion, sur notre ventre, notre deuxième cerveau. Elle n'est pas sur le premier. Donc, oui, c'est pour ça aussi qu'on a tous travaillé sur le rythme scolaire, qui est de réfléchir à quand est-ce qu'on est le plus apte à apprendre. Mais c'est apprendre, c'est comprendre, c'est voilà. Le physique influence la réception de l'oral.
D'accord. Alors, si on reprend, donc tu nommais tes trois aspects qui étaient un peu transversaux et qui étaient valables pour tout le monde, c'était le linguistique, le physique et le psychique. Et donc, on parlait
Voilà.
maintenant des particularités de chacun.
Oui. Donc là, on a le vécu. On a tous une façon d'interpréter ce qu'on voit. Si j'ai jamais vu de chat, je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie mentale pour recréer ce sens du chat. Donc je risque de perdre des informations connexes. Si je ne sais pas ce que c'est que le tri sélectif, je vais avoir du mal à comprendre un document qui en parle. Donc voilà, le vécu, notre champ de connaissances va forcément influencer. Donc dans ce cadre-là, la culture aussi. Ensuite, il y a aussi la proximité linguistique. Mais alors, quand on pense à la proximité linguistique, souvent on pense au lexique, qui va être très proche, par exemple, entre l'espagnol et le français. Alors, c'est vrai que cette proximité linguistique se traduit notamment par une plus grande facilité à comprendre des éléments phonétiques qui se ressemblent. Mais c'est aussi dans les schémas de connaissances. Donc, l'accès à l'information, elle dépend de schémas, des schémas de connaissances. C'est, on va dire, un des exemples, ça va être la structure de la phrase. Si je suis habituée à recevoir du sens selon un schéma sujet-verbe-complément, dans une autre langue, au niveau de la proximité linguistique, si l'autre langue est aussi composée de la même structure sujet-verbe-complément, ça va faciliter ma compréhension. Si je prends en japonais le possessif, par exemple la fenêtre de la salle, en japonais, on va inverser. Ça va être la salle dont la fenêtre, en quelque sorte. Eh bien, nécessairement, c'est pas parce que je connais pas le lexique que je vais avoir du mal à le comprendre, mais c'est aussi parce que cette transformation des schémas va me coûter du travail. Donc, la proximité linguistique va influencer la compréhension parce qu'elle va causer plus ou moins de travail mental.
Ouais, ceci dit, moi j'ai l'impression. Là, j'enseigne pas mal à des grands débutants. Tu vois, alors pour les structures, oui, je te rejoins tout à fait. Mais tu vois, sur les mots qui sont très proches, du moins moi avec un public anglophone, eh bien, bizarrement, hein, ils vont pas. Ça va être un travail, tu sais, avec eux, d'apprendre à détecter les similitudes qu'il peut y avoir entre les deux langues. Si on prend organisation, qui en anglais c'est organization, j'ai quelques apprenants, mais une bonne partie quand même, qui vont pas faire le lien entre les deux mots tout de suite s'ils ne l'ont pas à l'écrit, par exemple.
Oui, parce que là, on revient sur la chaîne phonologique et les unités de sens, c'est-à-dire qu'ils entendent organisation, ils ne font pas la relation graphiphonie, et puis organisation est perdue dans une suite phonétique où il n'y a pas de séparation avant et après organisation. Donc, ils vont avoir du mal à le faire sortir de son contexte phonétique.
Ouais, ce qui
Donc,
confirme ce que tu disais, hein, pour comprendre, on a besoin de travailler beaucoup la phonétique aussi, hein.
j'en suis persuadée, oui. Ensuite, l'autre aspect, et là, on revient sur ces mots proches, effectivement, il y a notre représentation qui vient aussi de notre vécu à nouveau. On n'a pas tous la même interprétation des mêmes choses, donc on va forcément interpréter, parce que pour moi, comprendre, c'est toujours interpréter, et interpréter pour soi du sens transmis, mais interpréter d'une façon personnelle quelque chose. Alors, par exemple, si je te dis girafe, tu sais ce que c'est qu'une girafe, moi aussi, mais il n'empêche qu'on n'a pas la même représentation d'une girafe.
Eh ben non, moi par exemple, je pense à, tiens, c'est le seul animal qui ne bâille pas.
Ah oui, alors là, tu vois, très franchement, je pense que je ne le savais pas. Mais voilà, on a tout un réseau d'unités de sens, si je dis girafe, qui vont se préparer. C'est-à-dire que dans ma tête, quand je vais dire girafe, eh bien, j'ai d'autres mots qui vont se préparer à être utilisés. Ça va être jungle, ça va être Kenya, safari, zoo. Ils vont tous se mettre à clignoter en quelque sorte et être prêts à être utilisés. Ils ne le seront pas forcément. Mais il n'empêche que si j'écoute un document et que l'unité de sens réveille certains mots, j'aurai plus accès à l'information que si ça en réveille d'autres qui sont très éloignés. Donc, un mot peut être effectivement très transparent entre deux langues, mais s'il est transparent mais qu'il éveille des choses différentes, ça peut induire des difficultés, au contraire.
D'accord, donc tu es en train de dire que notre cerveau, à chaque mot qu'on entend, prépare un champ lexical, en quelque sorte.
Oui, alors là, je vais te faire faire un petit exercice, si tu veux bien.
Allez.
Je vais te demander de répéter le mot blanc à l'oral. Tu répètes blanc, 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 comme ça.
Blanc, 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 blanc.
Et que boit la vache?
Ah, j'ai failli dire du lait.
Ah, voilà. Tu vois? Donc voilà, donc tu as répété le mot blanc et il y a des petits mots qui se sont mis à clignoter dans ta tête, même si tu ne les as pas vus clignoter, on est d'accord. Et ensuite, moi, je t'ai activé le mot boire et le mot vache. Quel mot était le plus près de ces trois items, de ces trois unités de sens? Ce n'était pas l'eau, c'était le lait.
Et ouais, c'est exactement ce que j'ai failli dire. Je me suis retenu parce que là, je fais très attention à ce que je dis dans les
voilà.
podcasts. Il ouais, y a le lait qui est presque sorti. Ouais.
Mais je te rassure, ce n'est pas un problème mental. Hein. C'est tout à fait normal. Au contraire, c'est-à-dire que tes réseaux sémantiques fonctionnent bien.
Bonne nouvelle.
Donc voilà, donc c'est l'illustration de ces réseaux sémantiques qui se réveillent quand j'entends quelque chose. Une unité de sens va en réveiller d'autres qui sont prêtes à agir, qui ne vont pas forcément agir, donc elles se mettent en mode veille. C'est un petit peu aussi le principe de « je suis dans un restaurant, je suis très poli, je n'écoute pas ce que disent les tables à côté ».
Oui.
Mais tout à coup, j'entends quelque chose et je me dis « oh, il a parlé de ça ». Eh bien, il n'empêche que j'entendais des choses sans que ça soit actif.
Mmh.
Donc, on a beau ne pas écouter, on entend.
Ouais.
Alors, autre chose aussi, si je reviens sur l'inégalité au niveau de la réception de l'oral. Donc, par rapport au réseau, déjà, on est bien d'accord qu'on a plusieurs réseaux. Et surtout en langue étrangère, les difficultés sont démultipliées finalement parce que on est en plein dans la construction d'un nouveau réseau qui est un nouveau réseau en langue étrangère. Alors, il n'est pas complètement séparé de notre réseau de langue maternelle. C'est bien pour ça qu'on a toujours tendance à faire des traductions au départ parce que c'est la seule activation qu'on va pouvoir faire dans les unités de sens. Mais on a aussi autre chose, et c'est là où on arrive à un point quand même que font les enseignants généralement et qui est bon, et qui est l'entraînement. Plus je vais m'entraîner, plus je vais avoir la capacité de comprendre. Ça, c'est un aspect sur lequel on peut effectivement agir.
Ouais, alors là, j'insiste un peu sur tu as utilisé le terme s'entraîner, parce que c'est toujours une question que je me pose. Je me dis, mais tiens, si on me met 24 heures devant des films chinois sous-titrés en chinois, je suis pas sûr que j'arriverai à m'améliorer en chinois. Et c'est un peu la différence entre écouter plus et s'entraîner mieux, quoi.
Oui, donc c'est bien pour ça que ce n'est qu'un des facteurs qui va permettre de s'améliorer. Mais si je cours 5 fois par semaine, je vais forcément progresser plus vite que si je cours 5 fois par an. Ça, et c'est évident que pour la compréhension orale, ça va marcher aussi, mais pas juste par l'exposition. C'est pas l'exposition qui va être déterminante. C'est que si on sait écouter, si on sait pratiquer la compréhension orale, finalement, on va permettre au cerveau, même si c'est pas un muscle, de s'entraîner et finalement de traiter plus vite l'information. Quand j'entends un mot qui ne m'est pas familier, faut savoir que physiquement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Traiter un mot ou une information qui ne m'est pas familière, une unité de sens, va prendre jusqu'à 10 fois plus de temps par mon cerveau. Donc, nécessairement, langue étrangère, on est en permanence plongé dans cette difficulté, dans cette lenteur d'exposition, de traitement de l'information.
Ouais, donc, ça fatigue aussi. Hein.
Et ça fatigue parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie mentale.
Mmh.
Donc l'entraînement, il va être à ce niveau-là, il va être dans le fait de permettre au cerveau de développer sa vitesse de traitement, de s'habituer à un débit. Et puis, si on a compris, donc si on a travaillé des phénomènes d'assimilation, notamment, ça va lui permettre de s'habituer à faire ce décodage, cette distinction entre les mots qu'on n'entend pas à l'oral. Donc, c'est une habitude, c'est un peu se muscler le cerveau quelque part, mais ça ne va pas me permettre de progresser linguistiquement. Ça va me permettre de progresser dans mon traitement de l'information.
D'accord.
C'est aussi pour ça qu'une personne qui parle 4 ou 5 langues n'a plus ces difficultés-là.
Ouais, c'est ça. Il paraît que c'est beaucoup plus simple après d'enchaîner les langues quand on en a plus plusieurs.
Quelque part, son cerveau est déjà musclé.
Ouais. Et donc, pour tout ce travail d'entraînement, il y a des façons justement de bien entraîner nos apprenants?
Oh bah oui, c'est de toute façon c'est très facile de toute façon d'arriver devant ces étudiants et de leur dire je vais t'apprendre à comprendre, n'est-ce pas? Non, c'est bien plus facile d'expliquer une règle de grammaire que de rentrer dans leur tête, on est d'accord. Mais l'enseignant a quand même un rôle qui n'est pas ici de transmettre du savoir. C'est bien de permettre aux étudiants de réfléchir eux-mêmes à leur stratégie d'apprentissage. Tout ce dont on a parlé, l'étudiant n'en est pas conscient. Or, peut-être que quelque part, le fait de connaître un petit peu les raisons de ces difficultés un peu mieux va lui permettre, par exemple, de se déstresser. Et s'il est moins stressé, eh bien, d'accepter de ne pas tout comprendre, d'accepter de comprendre certaines choses différemment de d'autres, etc. Donc, l'enseignant, il a un rôle de guidage dans les stratégies d'apprentissage. Il peut se permettre de suggérer d'autres manières d'écouter aux étudiants, leur faire prendre conscience de ces facteurs qui influencent la compréhension orale. C'est important pour un étudiant de savoir que s'il est fatigué, il comprendra moins et qu'il a le droit. C'est pas un souci. On aimerait bien qu'il comprenne tout, mais le fait qu'il soit fatigué va influencer et on le sait. C'est important qu'il le sache. Et puis, l'enseignant, il a aussi le rôle de vecteur de plaisir et de motivation. Donc, il faut absolument agir sur cette motivation et sur les hormones du plaisir qui vont permettre à l'étudiant de vouloir progresser, parce que la volonté, c'est aussi très important dans l'apprentissage.
Ouais, donc tu leur donnes des récompenses, tu plaisantes, mais dans moi je connais maintenant la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup à base de récompenses par cookies, bonbons, mais aussi des autocollants, des choses comme ça, quoi.
Oui, mais ça fonctionne parce qu'il y a une forme de compétition aussi, donc on entretient la motivation sur la compétition.
Ouais.
Or, le plaisir, il peut être dans nos autres choses aussi, c'est-à-dire de découvrir quelque chose de nouveau ou de passer un bon moment. Ça peut être une forme de récompense aussi, mais qui va être partagée. Mmh. Parce que finalement, quand on récompense certains, on ne récompense pas d'autres. Donc, c'est aussi, ça veut dire qu'on va favoriser certains par rapport à d'autres. Or, je pense que vraiment, en compréhension orale, ceux qui ont le plus de difficultés, c'est ceux-là qu'il faut encourager et non pas ceux pour qui c'est facile.
Eh oui.
Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour aider les apprenants. Alors, par exemple, travailler avec des documents qui sont proches de leur centre d'intérêt ou qui stimulent leur curiosité, et parce que du coup, ils vont s'impliquer cognitivement, leur demander de ne pas tout comprendre. Alors ça les choque quelquefois.
Ça, je le fais souvent, mais c'est vrai que pour eux, ça reste quand même une habitude difficile à prendre. C'est de dire, moi, je vous passe un vrai document de radio, donc tu vois, donc un vrai challenge un peu pour les apprenants, mais ne repérez que les nationalités qui sont évoquées ou que les pays, tu vois. C'est des choses qui sont pas toujours faciles. Ils ont la peur, le stress que tu évoquais tout à l'heure devant un document trop difficile l'emporte un petit peu sur la focalisation de l'attention qu'il pourra avoir sur un document comme ça.
Donc on est d'accord que c'est toujours ce souci de finalement je n'écoute pas de la même façon dans ma langue maternelle et dans la langue étrangère.
Complètement d'accord, ouais.
Donc, dans ce cas-là, on peut aussi les faire travailler par groupe avec des types de questions différentes. Et parce que ces questions vont guider leur attention. Et les mettre par groupe avec des questions différentes, ils vont se rendre compte qu'ils n'auront pas cherché les mêmes informations, mais finalement, ils auront compris le document. Tous, mais peut-être pas les mêmes parties. Et c'est pas grave parce que, encore une fois, j'ai pas forcément besoin de tout comprendre, j'ai besoin de comprendre les parties qui m'intéressent. Donc, leur faire se compléter en groupe les éléments d'information, c'est un travail que j'aime bien faire pour qu'ils prennent conscience de ça aussi. Alors, d'autres choses, c'est par exemple le fait de travailler sur de la vidéo. Hein, ça provoque de toute façon de l'endorphine, donc du plaisir. Mais c'est aussi leur montrer que dans la vie normale, l'information n'est pas apportée que par du vocabulaire. Et une vidéo va apporter du sens. L'audio qui accompagne la vidéo apporte d'autres éléments d'information. Et finalement, quand on les sépare, eh ben, on se rend compte que la vidéo apporte quasiment tout, très souvent.
Ouais. Il y avait comme ça une méthode, hein. Je crois que c'était Reflet où on commençait par la vidéo sans le son,
Oui.
qui permettait de préparer à la compréhension,
Oui. Alors, Reflet tentait ça,
hein.
effectivement, et ça permettait de se mettre dans les situations. Et je trouve que le grand apport de Reflet, c'était surtout de préparer l'écoute. Parce que là, il y avait une grande distinction qui était faite entre l'audio et la vidéo, donc entre les deux canaux de perception. Et la partie d'information visuelle était séparée de l'audio. Donc ça peut aussi être un souci. Parce que je pense qu'en général, c'est assez complémentaire. Mais ça permet au moins de préparer l'écoute, se mettre en condition, réveiller ces petits neurones dont on a parlé tout à l'heure dans notre mémoire sémantique, dans notre réseau sémantique. Donc ça, c'était un grand apport, un petit peu, dans Reflet.
Ouais, après, c'est vrai que je sens un peu, tu vois, pas les réticences, mais du moins les précautions à prendre. C'est vrai que parfois, ça peut être aussi un grand moment de solitude ou un grand moment d'ennui de se regarder une longue vidéo sans le son, si en plus on comprend rien. Donc c'est sans doute pas à faire avec toutes les vidéos, hein. Ce serait peut-être une activité à faire quand l'occasion se présente. C'est-à-dire quand la vidéo peut aider vraiment la compréhension, ou quand à la limite, on peut aussi jouer sur l'effet de surprise, hein, avec une vidéo, on essaie de faire des hypothèses pour voir ce qu'on va avoir, et puis il va y avoir quelques éléments de surprise qui fait que le contenu sonore ne correspondra pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé en regardant la vidéo, hein.
Oui, donc ça veut dire préparer la compréhension par la vidéo pour que l'effet de surprise soit encore plus efficace, quelque part. Il y a aussi dans les vidéos, quand tu parlais de ces vidéos qui étaient longues, effectivement, ça va toujours dépendre du type de document et du type de travail qu'on va demander. Donc tout dépend finalement des stratégies qu'on veut faire travailler aux étudiants. Et c'est là vraiment où est le cœur du travail de l'enseignant. Ça va être de permettre aux étudiants de découvrir d'autres stratégies d'écoute que celles qu'ils utilisent déjà pour voir si elles leur correspondent ou pas. On a tous des schémas de fonctionnement différents. Je sais que par exemple, moi, je suis quelqu'un de très analytique. On parle quelquefois des personnes qui sont très visuelles, qui vont être très impactées par la vue. Voilà, ou auditif, etc. Mais il y a les intelligences multiples. Donc finalement, tester d'autres façons d'écouter, ça va nous permettre de trouver un mode de travail qui nous correspond à nous. On va peut-être en tester une qui ne marchera pas, mais c'est important de savoir qu'elle ne marchera pas pour moi. Donc c'est là où est le cœur du travail de l'enseignant finalement, pour la
Ah oui, donc
compréhension orale.
tu dis pas d'adapter forcément tes cours à toutes les stratégies de la classe, mais c'est plus intéressant pour toi de demander aux apprenants de réfléchir à si cette activité-là que tu as mis en place, qui demande certaines stratégies, fonctionne pour eux ou pas, c'est ça?
Alors c'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de métacognition. Alors après, il y en a avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Mais j'ai tendance à faire pas mal de métacognition, de les faire réfléchir à comment ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ont compris, à partir de quoi ils ont compris, qu'est-ce qui les a aidés. Et quelquefois, ça m'arrive aussi de passer des moments où je parle sur, où on étudie un document et où je ne vais leur poser des questions que sur quel type d'informations ils ont comprises, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qui les a freinés, et je ne vais pas leur poser du tout de questions sur le document finalement.
Mmh. Et ça, c'est tout à fait en lien avec ce que tu proposes sur les plateformes aussi.
Oui, alors quand on fait un travail sur l'autonomie en plateforme, le travail en autonomie, on est vraiment sur un travail de qui est très différent de la classe. Dans la classe, on a toute la partie d'animation. Donc on voit quand un étudiant ne comprend pas, on voit bien dans son regard, ce regard fuyant, perdu, qu'on a... Or là, quand on sait que l'étudiant va être seul face à son ordinateur, donc on a besoin forcément de s'interroger beaucoup plus sur quel est le processus qui va se mettre en place que sur la transmission. On n'est pas sur de la transmission. C'est l'étudiant qui va apprendre.
Mmh.
Et en classe, on a l'animation et en autonomie sur une plateforme, on doit travailler sur la scénarisation, nécessairement. La scénarisation qui va permettre... l'acquisition ou l'apprentissage. C'est un petit peu différent, effectivement. Alors, juste une dernière petite chose quand même, il ne faut pas qu'on oublie, mais évidemment, l'enseignant, pour la compréhension, s'il peut agir sur les stratégies, enfin, faire travailler des stratégies, il y a toujours le développement d'outils linguistiques qui va être intéressant et permettre de travailler plus.
Et donc tu vas faire comment alors pour les amener à varier comme ça leur stratégie?
Moi, ça dépend des stratégies. Pour la compréhension globale, par exemple, on peut diffuser plusieurs documents ou un petit JT, un petit journal, le journal en français facile par exemple de RFI, et leur demander de répondre à chaque séquence juste à qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et de ne rien ajouter.
D'accord.
Et leur dire, bon, ça c'est une information annexe, on laisse tomber. Est-ce que c'est important? Pas important. Hiérarchiser les niveaux de compréhension.
Ah oui,
leur demander de résumer aussi.
Ouais, ce que je vois, c'est que tu vas pas forcément les forcer à changer de stratégie, mais tu vas déjà leur proposer de naturellement varier leur stratégie, peut-être en découvrir de nouvelles, et après ils les adopteront ou ils les adopteront pas, c'est ça?
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Parce que naturellement, ils sont enfermés dans leurs habitudes d'apprentissage. Alors ça, c'est pour tout pareil. C'est pas uniquement pour la compréhension orale, mais on voit bien que ils ont tous leur façon d'apprendre du lexique. Et si on ne leur propose pas d'autres façons d'apprendre du lexique, ils vont rester sur ces formes d'apprentissage du lexique. Alors que peut-être que la stratégie du voisin marcherait bien pour eux. Et peut-être mieux que celle qu'ils ont toujours utilisée.
Donc tu mènes vraiment ton combat entre guillemets sur les deux fronts, c'est-à-dire l'aspect on réfléchit ensemble sur comment j'ai fait pour comprendre, etc. Et le deuxième front qui est plus dans l'activité, voilà ce que je vous demande de faire avec votre document et puis essayer de voir ce que vous avez compris, c'est ça?
Voilà, eh bien, alors c'est très important aussi quand on fait un document de se centrer sur le sens. Ça peut paraître très simple, hein, mais c'est pas si évident que ça. Et on voit quelquefois des exploitations de documents audio ou vidéo qui sont du repérage phonétique, et ce n'est pas la même chose que de la compréhension du sens. Et se centrer sur le lexique, se centrer sur du repérage, c'est ce qu'ils ont envie de faire très souvent, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à repérer des clés et de se contenter des clés. Or, par exemple, travailler sur un document, c'est savoir l'écouter. Et je sais que si je regarde un reportage du journal télévisé, je suis sûre d'avoir presque toute la compréhension globale dans la présentation du reportage par le présentateur au départ. Donc, il faut absolument que je mette mon effort sur cette partie-là. D'abord, avant de regarder la partie suivante. Et du coup, savoir que je vais mettre mon énergie là pour ensuite comprendre très facilement ce qui va se passer, ben c'est important. Savoir que si je regarde une publicité va contenir des arguments. Savoir que si j'écoute une chanson, le message important de la chanson, très probablement, ça va être le refrain. Donc c'est le refrain que je vais vraiment bien écouter pour avoir le message. Les couplets, ça sera des informations annexes de l'illustration, des choses comme ça. Donc, leur faire comprendre qu'on n'écoute pas, et ça, c'est ce qui se passe en langue maternelle, hein, de toute façon. On n'écoute pas tous les types de documents de la même façon et on n'écoute pas pour les mêmes choses. C'est leur permettre, finalement, de transférer ce qu'ils font en langue maternelle dans la langue étrangère.
D'accord.
Alors après, il y a la préparation de l'écoute, la formulation d'hypothèses, la lecture des questions, les petites discussions sur le sujet, apprendre à comprendre le sens d'un mot à partir d'un contexte. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses comme ça.
Ça, sur le sens du mot à partir du contexte, on peut vraiment avoir des blocages avec certains de nos apprenants qui, tant qu'ils n'auront pas vérifié le mot dans un dictionnaire, etc., même s'ils ont compris avec le contexte, vont tellement peu sur deux, tellement en situation un peu d'insécurité face à une langue étrangère. C'est souvent les gens qui apprennent une première langue étrangère, qui, s'il y a le moindre doute, ils vont refuser de deviner. Ils vont vouloir être sûrs à 100% comme ça du mot, quoi.
Ça me pose pas de problème. Un étudiant rassuré, c'est un étudiant qui va apprendre mieux. Mais s'il le fait 15 fois dans le cours, et ça va le ralentir et il va s'en rendre compte aussi. Donc, petit à petit, il va laisser tomber cette habitude-là et il faut pouvoir lui proposer d'autres stratégies, justement. Et donc, un étudiant qui a son dictionnaire greffé dans la main, ou son smartphone, désormais, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il aille vérifier quelques fois. Mais souvent, je lui propose de noter dans un cahier, non pas les mots qu'il a cherchés, mais le nombre de fois où il l'a fait. Et lui demander d'observer sur un mois si cette quantité a diminué. Et finalement, ça va être un axe. Naturellement, ça va diminuer. Donc finalement, ça va être un axe pour lui faire prendre conscience qu'il a progressé et donc lui faire prendre confiance en lui. Et s'il prend confiance en lui, il va accepter de changer de stratégie, d'en tester d'autres.
Ouais.
Tout le monde n'est pas prêt à changer de stratégie. Hein. Il ne faut pas non plus se dire que c'est la solution miracle.
Ouais, moi, j'avais remarqué, donc pour des gens comme ça, tu sais, qui avaient beaucoup de mal à deviner, j'essayais de justement les faire deviner, faire leurs hypothèses, y vérifier, et je leur faisais noter quand leur vérification était en accord avec ce qu'ils avaient deviné et quand elle ne l'était pas, tu vois, pour qu'ils aient une idée à quel point ils pouvaient faire confiance à leur capacité de comprendre avec le contexte.
Ça, c'est une bonne chose aussi, effectivement. Ouais.
Ouais, enfin, comme tu le disais juste avant, c'est pas non plus un remède miracle, je te rassure.
Non, mais c'est vraiment une façon de leur faire mettre le doigt aussi. Quand on fait ça, on met le doigt sur, tu vois, tu fonctionnes comme ça. On va te proposer d'autres façons de fonctionner. Tu vas tester, tu verras bien. Mais de leur montrer qu'on est aussi à l'écoute de leur façon de travailler, qu'on est à l'écoute, qu'on va essayer de leur en enseigner d'autres et qu'on n'est pas uniquement là pour apprendre du vocabulaire.
Ouais, bah ça transpire dans tout ce que tu dis, mais tu vois, effectivement, sur les stratégies comme ça, les façons d'apprendre, je trouve que c'est un sujet un peu sensible. Il ne faut pas y aller en force face aux apprenants. Tu vois, c'est tout ce que tu dis, en fait, hein, de progressivement d'amener des nouvelles activités, mais de toujours être à l'écoute et de pas dénigrer les stratégies qu'eux utilisent à un moment, à un instant T. Dans le cours, quoi.
Et qui sont peut-être bonnes.
Et qui sont peut-être,
bonnes pour eux. Mmh. On n'est pas dans leur tête, hein, donc. Moi, j'ai fait une expérience plusieurs années. J'ai eu des groupes où j'étais enseignante de compréhension orale. Donc, on avait 3 heures par semaine. C'était un groupe de niveau B1. J'ai eu plusieurs semestres comme ça. Et quand on m'a confié ce cours, ça m'a énormément stressée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre? Et finalement, j'ai fini par travailler un petit peu, par beaucoup réfléchir. J'ai fini par trouver une solution que j'ai essayée, que j'ai testée. Donc, je leur ai fait un cours où pendant 15 jours, on travaillait sur une stratégie. Et ensuite, on changeait de stratégie. Et en même temps, j'avais un thème, c'est-à-dire qu'on avait 15 jours sur la compréhension globale et l'effet divers, par exemple. Donc, on avait un thème ou un type de document et une stratégie qu'on travaillait. Et je leur demandais d'écrire un carnet de bord où je les invitais à noter leurs ressentis après le cours. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui les avait aidés ou pas? Ou freinés? Et finalement, je me suis rendu compte que certains n'étaient absolument pas réceptifs à ce type de travail. Et à chaque fois, ça représente à peu près entre un quart et un tiers du groupe, puisque j'ai fait ce cours 4 semestres de suite. Donc, il y a entre un quart et un tiers du groupe qui n'étaient pas du tout réceptifs à ce type de travail. Et par contre, j'en ai à chaque fois au moins la moitié du groupe qui a vraiment bénéficié, c'est-à-dire qui a pu progresser en compréhension orale parce qu'ils y avaient réfléchi.
Ça fait une bonne proportion quand même, hein.
C'est déjà pas mal, oui. Ouais. Moi, j'étais assez surprise. Et du coup, j'ai des collègues, les collègues qui ont repris le cours ensuite, ont repris ce système. Alors, ça a été, je me suis adaptée dans le carnet de bord, je l'ai modifié petit à petit, mais il y a eu quand même un très, très bon résultat, et notamment chez les étudiants qui n'avaient pas confiance.
Ouais, parce qu'on parlait des représentations. En général, ce genre d'activité, ça ne rentre pas dans ce qui se représente d'un cours de langue. Tu vois, on va parler, on va écouter, etc. Surtout un cours de, s'il est estampillé compréhension orale, on s'attend à écouter des documents, à répondre à des questions, mais certainement pas à raconter comment on a fait pour comprendre, tu vois. Donc, ta proportion est vraiment pas mal, c'est intéressant, ça.
Non, c'était assez impressionnant, et j'en reparle de temps en temps en formation, parce que c'était la première fois que je travaillais vraiment sur ces stratégies. Et j'ai vraiment pris conscience, du coup, de ce fait que ça pouvait vraiment débloquer des choses. Mmh. Ça pouvait aussi ne pas correspondre du tout, mais s'il y en a la moitié qui ont progressé, ce serait dommage de s'en passer quand même.
Ouais, clairement. Et inversement, est-ce que tu as des exemples d'activités contre-productives ?
Oh oui, tout ce que j'ai fait à mes débuts notamment. comme les chansons avec des textes à trous aléatoires, des choses comme ça, des questionnaires où la troisième question permet de répondre à la première, questions linéaires, écouter un document de façon linéaire, quelle horreur, écouter un document linéaire et avoir juste du repérage de mots, c'est passionnant, n'est-ce pas?
Ouais.
Est-ce que si j'ai répondu avec un mot, j'ai compris le document? Je ne suis pas sûre.
Non, c'est ça. Alors, là, il faut distinguer en travail de phonétique, pourquoi pas, tu vois, s'attarder vraiment sur des mots. Je pense, tu vois, au travail sur les chiffres.
Oui.
Parfois, ça peut aider. Mais effectivement, dans la compréhension d'un document, je te rejoins avec toi, le repérage de mots, c'est pas top, hein.
Non, très clairement, non. Et les chiffres, c'est pareil, s'ils ne les relient pas à de l'information, à du sens, je veux bien qu'ils aillent repérer 32 000, mais si, quand ils répondent à un document, combien de temps a mis l'homme pour faire le tour du monde, et qu'ils répondent 32 000 ans, je ne suis pas sûre que le repérage du chiffre soit réellement pertinent, finalement.
Ouais.
Non, c'était 32 000 kilomètres, mais c'était 5 ans, je crois, dans ce document, en l'occurrence.
D'accord. Ouais, non. Et ce que j'ai déjà fait, que je considère comme une erreur aussi, c'est de demander ce qu'ils ont compris. Est-ce que c'est quelque chose que tu non, pardon, c'est plutôt l'inverse, demander ce qu'ils n'ont pas compris, mais c'est plus dans la compréhension écrite, tu sais, c'est la question qu'on balance tous à ses débuts, mais qui est je trouve à éviter, parce que là on se perd dans des explications terribles. Alors j'ai surtout vu avec des textes, pour le coup, en compréhension écrite, tu sais, quand on demande est-ce qu'il y a des mots qui vous posent problème, par exemple, alors là c'est fini, quoi. On en a pour une demi-heure à répondre aux moindres questions de vocabulaire, et on n'aura pas avancé sur la compréhension, du texte, quoi. À l'oral, je ne sais pas si, tu vois, demander ce qu'ils n'ont pas compris, etc., je trouve pas que... Pour moi, ce n'est pas une bonne activité, mais tu me diras peut-être le contraire.
Non, je suis d'accord avec toi, tout simplement, parce que je vois un petit peu la compréhension. Alors, je vais prendre une image, et je vois un petit peu la compréhension comme un verre qu'on remplit. Et on va ajouter de l'information, on va ajouter de l'information, on va ajouter de l'information. On videra pas forcément la carafe, Mais ce qui va manquer entre le niveau du liquide et le haut du verre, il n'est pas spécialement important finalement. Donc c'est la quantité d'informations qu'on a réussi à ajouter qui va nous permettre de comprendre, c'est pas ce qui manque.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, on est à peu près d'accord là-dessus. On verra si dans les commentaires les gens nous rejoignent ou pas. Alors, on a parlé des apprenants, on a parlé des activités, mais il faut aussi parler des documents. Est-ce que tu as des critères de sélection qui te viendraient à l'esprit quand tu veux choisir des documents pour tes apprenants?
Oui, mais ça dépend de l'objectif qu'on est en train de travailler. Donc, j'ai déjà parlé du plaisir. Donc, un document qui va nous faire plaisir est toujours prioritaire sur un document ennuyeux et qui ne va intéresser personne.
Quand tu dis « nous », c'est tes apprenants et toi.
Oh oui, je m'inclus toujours dans ce groupe. Quand je regarde un document, je regarde pas uniquement son contenu lexical et grammatical. Très clairement. Alors, il y a le cadre européen commun de référence qui cadre quand même pas mal la typologie de documents, les contextes, les débits, les critères de compréhension comme ou les conditions comme les bruits, la complexité du langage. Il ne faut pas hésiter à s'en servir pour sélectionner, pour vérifier l'adéquation.
Oui, là, il faut faire attention parce qu'effectivement, comprendre un film, c'est pas la même chose de comprendre Les Visiteurs, par exemple, et de comprendre un film compliqué comme Le Dîner de cons, tu vois.
D'où effectivement ce rapport aux critères de performance et aux conditions de réalisation si chères aux définitions d'objectifs.
Bah ouais, parce que si on se contente des descripteurs généraux, tu vois, on va dire bon bah là ils sont capables de comprendre un film, là ils sont capables de comprendre un reportage, mais il faut pas oublier un petit peu ce critère de complexité de la langue que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, tout à fait, et de la langue et du contenu sociolinguistique aussi.
Eh oui.
Mais un document qui va être amusant va peut-être être plus facile à comprendre qu'un document qui ne l'est pas, mais qui contient deux éléments plus simples. Parce que je vais m'impliquer. Donc après, si c'est une évaluation, on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité, ne serait-ce qu'au niveau du vécu, au niveau du contenu. On va essayer de travailler sur quelque chose dont on a déjà parlé pour être sûr que, par exemple, si on parle de tri sélectif, les étudiants qui sont dans un pays où on pratique le tri sélectif ne vont pas être favorisés par rapport à des étudiants qui viennent d'un pays où on ne le pratique pas. S'assurer que les questions vont porter sur de l'information et pas sur une suite de phonèmes, sauf si c'est ce qu'on a travaillé, effectivement. Mais en tout cas, ouais, faut pas se limiter à regarder le contenu lexical et grammatical. J'ai trop souvent vu aussi des personnes qui transcrivaient un document des documents et qui ensuite, pour une évaluation, prenaient les transcriptions pour choisir le document. Là, très clairement, on n'est pas sur de la compréhension orale, mais sur de la compréhension écrite de quelque chose qu'on ne verra pas écrit. Donc, conserver, oui, l'aspect plaisir, conserver cette analyse un petit peu des informations. Et puis, moi, je préfère toujours les documents authentiques. Mais si j'utilise une vidéo, j'essaie de faire attention aussi à quelles sont les informations qui sont apportées par le visuel, lesquelles sont apportées par le canal auditif, quelles informations se complètent ou s'illustrent par la complémentarité des canaux, parce que je ne vais pas le travailler de la même façon si toutes les informations sont contenues dans la vidéo, ou si, comme tu disais, on va avoir un décalage entre l'image et le son, qui va apporter des informations soit complémentaires, soit contradictoires, on ne travaillera pas de la même façon.
Ouais, tout à fait. Et pour revenir sur la transcription, tu la déconseilles ou tu mets peut-être des limites à son utilisation?
Jamais au tout départ, en tout cas, parce que ce n'est pas de la compréhension écrite. Ça peut, si on fait un travail sur la graphiphonie, par exemple. Si on veut mettre le doigt sur la segmentation et habituer un étudiant à reconnaître phonologiquement une suite de sons qui sont habituels, comme si je dis « je ne l'ai pas vu
».
Eh ben, « je ne l'ai pas vu », ce n'est pas évident à comprendre, parce que « je ne l'ai pas vu », il faut que je le décompose en « je »,« ne »,« l », « est », pas vu. Et là, chaque mot a du sens. On a une négation, on a du passé composé. Voilà, c'est très, très complexe. Or, phonétiquement, très peu de phonèmes. Donc, s'habituer à cette relation graphie-phonie, pourquoi pas? Mais pas dans un premier temps. Pas si on est sur la compréhension orale, je vois pas l'intérêt.
Ouais, donc tu préconises de faire la compréhension orale uniquement à partir du document tel qu'il est, et puis après, avec d'autres objectifs, recourir à la transcription.
Oui, pourquoi pas pour la mise en confiance, ou pourquoi pas donc pour la graphiphonie, ou alors pour, comment dire, pas forcément la transcription, mais il y a d'autres façons. On ne pense souvent que à la transcription pour ce travail de compréhension orale. Mais le sous-titrage, c'est quelque chose qui est intéressant, sauf qu'il faut bien garder à l'esprit que le sous-titrage, ce n'est pas la transcription, parce que on n'entend pas à la même vitesse qu'on lit. Donc le sous-titrage au cinéma, c'est pas exactement les paroles. Donc le sous-titrage est intéressant dans le sens où il va proposer des façons différentes d'apporter du sens. Donc pourquoi pas travailler ça aussi?
Le sous-titrage dans une autre langue ou dans la langue du document?
Dans la langue du document.
Ouais, d'accord. Donc pour le coup, c'est les versions qu'on peut avoir pour les malentendants sur des DVD, des choses comme ça. Hein.
Oui, où on va avoir le chasse d'eau entre parenthèses, n'est-ce pas?
Voilà.
Quand on a un bruit de chasse d'eau, c'est parfait.
C'est le bon exemple.
Qui fait beaucoup rire les étudiants, et au départ, ils ne comprennent pas ce que c'est d'ailleurs, mais c'est très intéressant. Donc on a aussi, pourquoi pas leur proposer, au lieu de leur proposer une transcription, pourquoi pas leur proposer une succession de titres, une forme de chapitrage, pour qu'ils puissent suivre le déroulement d'un document. Ça guide l'écoute, mais ce n'est pas, mais on n'est pas dans la compréhension. Par contre, du coup, ils comprennent une structure de document, ils sont rassurés, ils vont pouvoir se raccrocher à quelque chose. S'ils sont perdus à un moment, ils vont attendre de passer à la partie suivante. Donc, il n'y a pas que la transcription. La transcription, après, la compréhension orale, éventuellement, si on a besoin d'un corpus pour travailler un point lexical ou grammatical. Mais la transcription ne peut pas être l'accompagnement de la compréhension orale au moment où se passe la compréhension orale. Après, peut-être, mais pour un autre travail.
Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense aussi, tu sais, les chaînes d'infos qui ont beaucoup de bandeaux pour annoncer un reportage ou d'autres titres, etc. C'est vrai que c'est des supports aussi qu'on oublie parfois d'exploiter. Le fait oui. D'avoir un bandeau en sous-titres ou parfois une édition spéciale en haut à droite, etc. C'est vrai que ça peut aider à contextualiser aussi.
Mais ça précise, en fait, le... ça permet d'avoir un point de repère. On ne va pas interpréter autant d'informations en visuel ou en textuel que en oral. Donc, on libère quand même sa charge mentale pour l'oral. Mais on se repère, on peut se raccrocher et on peut ne pas être perdu. Donc, c'est rassurant.
Ok. Ben, je pense qu'on a fait, on a fait un petit peu le tour.
Ben, je pense que déjà avec ça...
Ouais,
ça fait
beaucoup
pas mal
de
choses, travail.
Beaucoup de choses à voir. Et ben voilà, on en a terminé pour ce dossier. Dans les notes de l'émission, et bien vous retrouverez donc la bibliographie, la cytographie d'Anne-Line qui nous la met gracieusement. Merci beaucoup Anne-Line.
Merci à toi pour l'invitation.
Et puis tu mettras aussi ton carnet de bord alors sur les stratégies.
Des liens en tout cas pour le travail sur le carnet de bord et pour le travail sur les stratégies, ces choses à partir desquelles j'ai composé mon travail. J'ai rien inventé, hein, je suis pas la source de ce travail-là, donc des sites qui m'ont inspiré en tout cas pour ce travail-là.
Voilà, c'est super, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial?
Sur LinkedIn, j'ai mon réseau professionnel, mon profil sur le réseau professionnel.
Ok, eh bien écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission et sur le blog desartsdufleu.net. Merci encore, Anne-Line, c'est vraiment sympa.
Merci à toi.
Et puis, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Et on passe maintenant à la rubrique pour aller plus loin. « Alors la première chose pour apprendre un peu plus sur la réception orale, les stratégies et puis le carnet de bord dont parlait tout à l'heure Anne-Line, eh bien vous pouvez tout simplement déjà télécharger le fichier PDF qu'elle met à votre disposition, et ça c'est vraiment très sympa de sa part. Dedans, eh bien il y a tout un tas d'activités, de questionnaires sur des documents, mais il y a aussi à la fin eh bien toute une cytographie. Alors vous retrouvez dans ce document, eh bien document de l'Université de Lille, un dossier complet sur apprendre à apprendre, ça s'apprend. Et là, c'est vraiment super parce qu'il y a plein de rubriques, plein de choses à explorer, plein de choses à lire. Donc, il est vraiment recommandé. Moi, j'avais adoré la lecture et c'était une découverte. C'était la première fois que je voyais. Donc, c'est grâce au document d'Anne-Line que j'ai pu lire tout ça. Un article de la revue Alsic sur le carnet de bord. C'est un article d'Anne Château et d'Hélène Zumbil. Vous retrouvez aussi un article de Monique Marneff sur le site de Cyberlang qui s'intéresse, lui, à des pistes concrètes pour améliorer sa compréhension orale. Vous avez un article sur la compréhension orale seconde en Algérie. C'est un article du CLA de Besançon et qui s'appelle « Qu'est-ce que comprendre ? Qu'est-ce qu'une situation d'écoute ?» Vous avez un article du CREFECO sur « Qu'est-ce que comprendre ?» et puis les stratégies. Et enfin, vous pouvez aussi retrouver une liste des stratégies de compréhension orale avec des activités, et ça, c'est sur le site de l'Académie de Rennes. Donc merci Anne-Line pour toutes ces ressources, c'est vraiment sympa de nous laisser tout ça. De mon côté, eh bien, peut-être que tout d'abord, je vais vous recommander d'écouter ou de réécouter le numéro qu'on avait fait avec Gabriel sur la compréhension orale et les activités. Donc là aussi, c'était un numéro très sympa et Gabriel nous donnait plein de trucs sur comment animer la compréhension orale en classe. Donc c'est très complémentaire de ce qu'a dit Anne-Line. Et bien sûr, vous pouvez aller voir son blog. Hein, le blog de Gabriel, c'est Gapfleu. Et vous pouvez bien sûr aller y trouver plein de documents et aussi plein d'exploitations possibles de ces documents. Et puis, il n'y a pas que de la compréhension orale, il y a aussi de la phonétique, quelques explications grammaticales. Et c'est intéressant de voir sa méthode de travail. Et justement, hein, quand vous regardez les activités de Gapfleu, vous voyez que, comme le disait Anne-Line, hein, la transcription arrive vraiment tout à la fin. Eh bien, soit pour éclaircir quelques zones d'ombre, peut-être, ou plutôt pour travailler des points grammaticaux. Donc là, c'est un bon exemple de comment intégrer les transcriptions dans des activités de réception orale. Alors autre chose aussi pour travailler la réception orale, ce qui est bien, c'est d'avoir des documents. Et je vous propose de partir à la découverte du site fleuvideo.com, où vous avez pas mal de ressources disponibles. Là, directement sur la page d'accueil, vous trouverez des conseils pour rédiger un CV, une vidéo sur la Saint-Valentin, une autre sur une chanson de Zaz, « Paris sera toujours Paris », une vidéo sur le festival d'Angoulême, et puis une autre vidéo sur la Chandeleur, une histoire de crêpes. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Tout est classé eh bien, par niveau, donc vous avez A1, A2, B1, B2. Vous avez une entrée quiz aussi, et puis bien sûr, eh bien, vous pouvez créer un quiz pour le mettre eh bien, sur fleuvideo.com. Donc voilà, c'est un bon site pour trouver tout un tas de choses. Et puis sachez qu'il a aussi des sites jumeaux, dont un qui s'appelle eslvideo.com, qui est la version anglaise de Fleuvideo. Donc là aussi, hein, c'est pas mal pour trouver des ressources et puis pour voir leur exploitation. Alors on continue à parler ressources, et bien sûr je vous rappelle qu'il existe le site Podcast Français Facile qui vous permet de trouver des podcasts en fonction des thèmes, donc situation d'achat, séjour linguistique, travailler, etc. Vous pouvez bien sûr choisir les niveaux, alors c'est débutant, avancé, vous pouvez trouver des dictées, des points de grammaire, les nombres, etc. Donc là aussi beaucoup de choses à retrouver sur ce site. À vous de voir si vous voulez eh bien, faire travailler en autonomie ou bien travailler en classe, hein, tout est évidemment possible. Puisqu'on est dans l'audio, il ne faut pas oublier aussi le site audiolingua.eu, où là aussi vous pouvez, alors ça fonctionne évidemment là en plusieurs langues, hein, vous avez du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du russe, du portugais, du chinois, etc. Vous choisissez le niveau, vous choisissez la langue que vous voulez, et puis vous cherchez des mots-clés. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin dans les critères de recherche en choisissant eh bien, la voix, l'âge et la durée de votre document. Donc là aussi, une belle mine où vous pouvez trouver plein de documents pour faire travailler la compréhension orale. Un autre site aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr Bonjour de France. Vous avez la section compréhension et là aussi, vous choisissez par niveau, cette fois des niveaux du cadre avec A1, A2, B1, B2, C1. Et puis, vous pouvez aussi naviguer eh bien, dans le site, dans les différentes catégories, hein, grammaire, compréhension, vocabulaire, des fiches pédagogiques, etc. Donc, vous trouvez pas mal de choses. Là, en lien sur le site, hein, dans les notes de l'émission et sur le blog des Heures du Fleu, je vous ai mis le lien directement vers les exercices de compréhension. Alors après, il ne faut pas non plus oublier le site Modoufleu. Même chose, je vous ai mis le lien vers les activités de compréhension orale. Et là, vous avez plein d'activités interactives avec des documents. Donc, vous trouvez aussi plein de choses à faire pour travailler la compréhension orale. Il y en a plein d'autres, évidemment, que j'aurais pu nommer. Il ne faut pas oublier toujours d'aller voir du côté de Tissanfleu, le site de Marie-Josée qui propose toujours des dossiers thématiques avec plein de ressources pour faire travailler plein de choses, pas seulement la compréhension orale. Donc n'hésitez pas à naviguer, vous aurez forcément de quoi faire. Et n'oubliez pas aussi que eh bien, s'intéresser à comment s'abonner à un podcast, ça peut être pas mal pour vous. Pour trouver des documents, hein. Je vous ai déjà expliqué ça dans plusieurs numéros. Je vous ai déjà aussi expliqué ça en vidéo sur le site de T'enseignes-tu. C'est pas hyper simple, mais c'est pas non plus très compliqué de s'abonner à un podcast, et ça vous permet de chercher plein de documents sur les radios, mais aussi sur les podcasts indépendants. Et pour un autre annuaire aussi, vous pouvez, plutôt que passer par iTunes, passer par PodCloud. PodCloud qui remplace maintenant Podcast France, hein, et qui vous permet de lire, de vous abonner, tout ça au sein de leur site. Donc c'est vraiment pas mal si vous cherchez des documents audio. Cette fois, si on part du côté plus théorique de la réception orale, alors bon, je vous ai déjà cité tout ce que Anne-Line a mis à votre disposition dans son PDF. Je vous recommande moi un article sur edufleu.net qui s'appelle « L'enseignement de la compréhension orale ». Il est un peu long comme article, mais finalement assez digeste, parce qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de listes dedans. Et il fait un petit peu le tour sur les objectifs, les supports audio que vous pouvez choisir, la démarche didactique, comment vous faites après l'écoute, la deuxième écoute, les types d'activités, tout ça. Donc c'est pas mal pour rebrasser un petit peu tout ce qu'on sait sur la compréhension orale. Et un autre article que je vous recommande, alors c'est peut-être un article un peu plus scientifique qui vient des cahiers de l'ACEDLE. C'est un article de 2008 de Chantal Parpette, qui est donc maître de conférence, hein, à l'université Lumière de Lyon 2. Et son article parle de la compréhension orale en classe à la réception orale en situation naturelle, une relation à interroger. Et c'est vraiment, enfin, ça fait un bon écho à ce que nous disait Anne-Line. Et je trouve que c'est un article qui est indispensable à lire si vous voulez comprendre un petit peu tous les transferts et les difficultés qu'on peut avoir entre la compréhension en classe et la compréhension en situation naturelle. Voilà, c'est tout pour les liens que je voulais vous recommander, et ça fait déjà pas mal de lectures. C'est tout aussi pour ce numéro 26 des Arts du Fleu. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous soutenir en mettant des commentaires, en interagissant sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à continuer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur iTunes, sur le site ou sur les différents réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours agréable d'échanger avec vous. Dans les prochains numéros à venir, eh bien, il y aura un numéro spécial Expolangue, puisque vous avez été quelques-uns à bien vouloir vous prêter à l'exercice, donc c'est vraiment sympa. On fera, donc, comme l'année dernière, hein, un numéro hors-série spécial Expolangue. Et puis pour la suite, eh bien, on vous réserve plein de surprises, et comme je vous le disais au début, hein, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de ce qu'on va vous proposer, mais j'attends encore un petit peu qu'on définisse tout ça pour pouvoir eh bien, tout vous communiquer, mais ce sera évidemment un projet à plusieurs, je serai plus tout seul derrière le micro, et ça me fait énormément plaisir. Voilà, un grand merci à tous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux numéros, et d'ici là, bon cours !